Bonjour à tous et bienvenue dans Tour d'Europe, votre podcast d'actualité sur le football européen. Je suis Cyril Morin, journaliste à Eurosport, et c'est le grand retour de la Ligue des Champions cette semaine, ce qui nous permettra d'évoquer en premier sujet le choc entre le Paris Saint-Germain et la Real Sociedad. Elton Mokolo, spécialiste Ligue 1, Anna Caro, spécialiste Liga, et cette question centrale, Paris doit-il avoir peur de la Real Sociedad ? On ira ensuite en Allemagne pour débriefer le choc du week-end et la victoire du Bayer Leverkusen 3-0 face au Bayern Munich. Leverkusen va-t-il le faire ? On posera la question à David Lortolari. Et on terminera enfin par un détour par l'Angleterre. Declan Rice a plané lors de la victoire d'Arsenal sur le terrain de West Ham, 6-0. Et si Declan Rice était la meilleure recrue de l'été en Première Ligue, et même plus loin, si c'était l'un des meilleurs milieux de terrain en Europe, Philippe Auclair nous parlera de son cas. Vous connaissez le topo, Tour d'Europe est à retrouver sur toutes les plateformes d'écoute tous les lundis. Vous tapez Eurosport FC et en prime, vous trouverez également le FC Stream Team chaque vendredi. Et si vous préférez la vidéo, rendez-vous sur eurosport.fr pour retrouver les meilleurs extraits de cette émission. Vous connaissez le menu. Alors Tour d'Europe, c'est parti. On démarre ce Tour d'Europe avec notre bonne vieille Ligue 1 et Elton Mokolo. Comment ça va, Elton ?
Écoute Cyril, ça va très bien. Un bon week-end de Ligue 1, ouais, encore une fois, un week-end productif avec par exemple un match rocambolesque du côté de la Mosson, enfin une fin de match rocambolesque, un très bon derby de Côte d'Azur et aussi une actualité un peu moins réjouissante du côté du Vélodrome, sans oublier le bon match du PSG.
Alors, le Paris Saint-Germain, on en parlera juste après avec Anna Caro pour faire un gros zoom sur le duel de mercredi PSG-Real Sociedad. Peut-être sur la Ligue 1 avant, toucher un petit mot de l'Olympique Lyonnais, qui pour une fois arrive à gagner des matchs en étant très mauvais, si on devait résumer l'affaire. Pierre Sage a été assez dur dans les mots employés après coup. Ça prouve quand même que Lyon est sur la bonne pente à tes yeux, cette victoire 2-1 à la Mosson, malgré un contenu pas réjouissant.
Dans la quête de l'excellence voulue par Pierre Sage pour son Olympique Lyonnais, il faut de l'exigence. Donc clairement, Pierre Sage ne va pas se satisfaire seulement d'une victoire. Et même si la victoire est très importante au niveau comptable, mais par rapport à ça, on n'est pas dupe. On a vu un match qui a été beaucoup plus compliqué. Paradoxalement, c'était le match le plus compliqué à gérer pour l'Olympique Lyonnais à partir du moment où, face à l'Olympique de Marseille, il y avait un caractère événementiel. Ouais. Face à Lille, on était en Coupe de France, donc c'était un autre contexte. Et face à Montpellier, tu étais configuration extérieure. Face à une équipe qui avait aussi besoin d'aller chercher ses trois points parce que Montpellier n'est pas dans la meilleure des situations. Ouais. Et du côté de l'Olympique Lyonnais, même si le contenu n'est pas bon, c'est davantage les vertus mentales qui m'ont intéressé parce qu'à un moment donné, à 1-0, on aurait pu se dire que l'Olympique Lyonnais allait être rattrapé par une certaine fatalité et se dire qu'encore une fois, on allait perdre des points. Et on a vu une équipe qui s'est rebellée contre son sort. Et ça, pour moi, c'est très encourageant. Il faut autant valoriser cette victoire que face à l'Olympique de Marseille. Et là, pour moi, Cyril, j'ai le sentiment qu'on est vraiment sur une semaine bascule. Okay. On est sur une semaine bascule parce qu'on est sur trois victoires. Et je pense que pour moi, c'est le meilleur moteur pour un groupe. Et d'autant plus que pour l'Olympique Lyonnais, ils ont longtemps cherché des victoires. Et là, ils enchaînent trois victoires. C'est de bon augure avant Nice que tu vas recevoir la semaine prochaine.
Alors Nice, ça tombe bien. C'était l'affiche de dimanche soir, ce derby de la Côte d'Azur. C'était très sympa. De très beaux buts. En plus, on vous conseille d'aller voir notamment le doublé de Zakaria qui était magnifique. Et Monaco, un peu de manière surprenante finalement, qui a fait voler en éclats cette défense niçoise. Comment tu analyses ce match-là ?
Ah mais je l'avais vu venir. Je l'avais vu venir pour Monaco et c'est ce qui me rend plus en colère par rapport à Monaco. Et je dis ça de manière très affectueuse parce que après cette grosse sortie de route qui aura un impact sur la saison du côté de l'AS Monaco. Ils étaient attendus au tournant et qui plus est face à Nice. Donc moi, je pense que le groupe s'est repris en main et que par rapport à ça, les individualités se sont davantage mises en avant à l'image de Zakaria qui met quand même un doublé. Donc c'est une équipe qui a été dans la réaction face à Nice qui est beaucoup moins bien parce que c'est vrai que du côté de l'actualité Côte d'Azur, on se focalise davantage sur Monaco, mais on ne peut pas dire que Nice soit sur la meilleure des périodes. Et donc on a vu un match qui a été enlevé à partir du moment où tu as un but précoce et un très beau but de Zakaria qui a, entre guillemets, lancé, qui a décomplexé cette rencontre et on a eu une rencontre coup de poing qui se termine à la fin de match avec Monaco. Donc pour moi, c'est une victoire très importante parce que c'est un derby et ça fait toujours plaisir de gagner un derby, mais c'est une victoire réaction. Moi, j'attends beaucoup plus du côté de Monaco parce que pour moi, c'est mon coup de gueule de la semaine. J'ai le sentiment que Monaco, cette sortie en Coupe de France, quand tu sais que tu n'as pas eu de Coupe d'Europe cette semaine, pour moi, cette sortie, c'est un tournant dans la saison. Et que quand bien même tu arrives à te qualifier en Ligue des Champions, il me manquera un truc du côté de l'AS Monaco parce que moi, j'ai beaucoup parlé cette saison de saison rédemption pour l'AS Monaco. Je voulais un état d'esprit irréprochable par rapport à ce qui s'était passé en fin de saison dernière. Et là, le fait de sortir face à Rouen de cette manière-là, moi, ça m'a énormément déçu. Et je savais qu'ils allaient faire quelque chose contre Nice. Mais encore une fois, pour l'AS Monaco, ça ne garantit rien parce qu'il y a d'autres équipes qui attendent derrière, comme le RC Lens.
Rédemption, actuellement, ce n'est pas le mot qu'on utiliserait pour l'effectif marseillais. Un nouveau nul. Alors évidemment, Quentin Merlin fait une passe décisive pour Moumania, qui est le nouvel attaquant de l'OM, mais... On en a longuement parlé la semaine dernière. On ne voit pas encore les prémices d'une révolution ou en tout cas d'une prise de conscience de l'OM. Ça coule et presque en silence, que, carrément.
Ah, ça, on est encéphalogramme plat du côté de l'Olympique de Marseille, à savoir qu'il y a guerre de réaction, il n'y a pas de victoire, chose qui est la plus importante. Et quand bien même t'affrontais Metz, qui restait quand même sur 7 défaites en Ligue 1, à domicile, t'as pas été en mesure de réagir. Alors évidemment, il y a un élément circonstanciel très important avec la sortie prématurée de Gigot sur carton rouge à la 31e minute. Et toujours est-il que l'Olympique de Marseille, à un moment donné, mène 1-0. Ouais. Ça, c'est pas neutre. Et alors que tu te dis que tu mènes 1-0 face à une équipe messine qui n'est pas la plus généreuse, la plus généreuse, la plus offensive, moins de 5 minutes plus tard... Metz égalise. Et donc, par rapport à ça, ça renvoie aux difficultés de l'Olympique de Marseille qui est vraiment en énorme difficulté. Parce que pour moi, je l'ai déjà dit il y a plusieurs semaines, mais la Ligue des Champions, c'est quasiment acté qu'ils y seront pas. Sauf concours de circonstances très, 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 très improbables. C'est-à-dire l'Olympique de Marseille qui fait une fin de championnat canon et qu'à côté de ça, tous les adversaires s'écroulent. Et là, mon cher Cyril, il n'est même plus question de Ligue des Champions. Il est question de se qualifier en Coupe d'Europe. Ouais. Parce que quand tu regardes la dynamique actuelle de l'Olympique de Marseille qui, dimanche soir, entre deux matchs de Coupe d'Europe, va se déplacer à Brest. Brest qui sort fâché de son match nul face à Clermont alors qu'ils avaient le match bien en main. Moi, je me dis, c'est très inquiétant pour l'Olympique de Marseille. Au moment où on se disait qu'ils avaient mangé leur pain noir, ils avaient eu un début d'année compliqué avec des affiches de gala. Ouais. Là, alors qu'on pensait qu'on était sur des affiches un peu plus modestes, et il y a quand même Brest à jouer dimanche, et bien même là, face à Metz, tu n'arrives pas à prendre des points. Donc, c'est très inquiétant pour l'Olympique de Marseille. C'est très inquiétant pour Gattuso, qui pour moi est sur 10 jours pour moi qui vont être très très importants pour son avenir.
Tu as parlé de Coupe d'Europe, tu m'offres une transition rêvée. On va accueillir Anna Caro pour évoquer le match entre le PSG et la Real Sociedad. C'est le grand rendez-vous de la semaine. Mercredi, le Paris Saint-Germain a rendez-vous avec la Real Sociedad au Parc des Princes. On accueille Elton Mokolo, donc spécialiste Ligue 1, et Anna Caro, spécialiste Liga, pour nous décrypter un petit peu ce match. La première question, Elton, je vais te la poser directement. Paris doit-il avoir peur de la Real Sociedad ?
Paris doit avoir du respect pour la Real Sociedad. Peur, non, parce qu'il faut dépassionner ça, à savoir que ça reste un huitième de finale et je pense que le PSG a de grandes aspirations. Donc, dans cette idée-là, moi, je dirais qu'il faut avoir du respect pour la Real Sociedad qui a terminé première de sa poule, à la différence du PSG. Donc, rien que ça, ça incite à la méfiance du côté du PSG.
Anna, même question.
Est-ce que la Real Sociedad doit avoir peur du PSG ?
Non, est-ce que le PSG doit avoir peur de la Real Sociedad ?
Peur non plus, surtout que la Real Sociedad traverse un moment un peu compliqué. C'est un peu le meilleur moment finalement pour le PSG d'affronter cette Real Sociedad parce qu'on avait beaucoup vanté au moment du tirage les qualités de jeu, notamment de la Real Sociedad, ses qualités en attaque, de profondeur, etc. Et finalement, c'est des éléments que la Real Sociedad a un peu perdu ces derniers temps, surtout là en début d'année 2024. Donc l'avantage est plutôt à Paris et même si comme tu le rappelais il y a quand même ce classement, le fait qu'ils aient fini premier de leur groupe et dans un groupe en plus compliqué.
C'est quoi la tonalité en Espagne autour de ce duel? Est-ce qu'on estime que la Real Sociedad a suffisamment de quoi faire pour faire plier le Paris Saint-Germain ou est-ce qu'on se dit quand même c'est un petit peu déséquilibré sur le papier?
Non, là, on se rend compte que c'est déséquilibré, surtout si on prend les conférences de presse d'Emmanuel Alguacil. Ces derniers temps, il a préféré prendre un peu à l'ironie la mauvaise passe que traversait son club, parce qu'il a beaucoup blessé, parce qu'il se rend compte aussi qu'il y a un énorme manque de chance, parce que la Real Sociedad se crée des occasions, mais n'arrive jamais à concrétiser. c'est un peu une Real Sociedad malade hein, qui va arriver au Parc des Princes et la presse s'en rend compte. Surtout qu'il y a quand même cette grosse interrogation sur la présence ou non de Mikel Oyarzabal devant, l'attaquant, le capitaine et l'âme de l'équipe, comme le dit la presse espagnole. Et le fait qu'il ne soit pas là et qu'il ne soit potentiellement pas là parce qu'il va faire le déplacement, mais avec de très grandes chances qu'il ne joue pas, ça inquiète beaucoup en Espagne. Et c'est vrai que pour l'instant, en tout cas sur ce match aller, l'avantage est plus à Paris.
C'est pas du tout la même équipe qui a terminé première de son groupe, dans un groupe où il y avait notamment l'Inter. Elle n'a plus le même visage.
En fait, la Real Sociedad a eu plusieurs visages. C'est-à-dire qu'en championnat, on avait une équipe qui était très offensive, qui était très efficace, qui dominait totalement ses rencontres. Et en Champions, on avait plutôt une équipe très très défensive, avec un bloc très soudé, qui prenait très très peu de buts. Ouais. Et cette question défensive, cette assise défensive, la Real Sociedad l'a toujours parce qu'ils n'ont pris qu'un seul but sur leurs 5 derniers matchs. Ouais. Donc il y a quand même cette assurance-là de se dire la Real Sociedad ne marque plus mais a toujours cette assise défensive. Donc le point fort qui a fait la belle épopée de la Real Sociedad en Champions League, ils l'ont toujours. Okay. Il leur manque par contre ces buts parce que évidemment si on ne marque pas de buts, c'est un peu compliqué.
C'est un petit peu le constat inverse, Elton, pour le Paris Saint-Germain qui sort peut-être d'un de ses matchs les plus probants malgré l'absence de Kylian Mbappé dans le 11 de départ face à Lille. Mais on a vu un PSG cohérent, efficace au pressing, plutôt opportuniste, avec des individualités qui ressortent. On se souvient qu'on a beaucoup parlé de la promesse de Luis Enrique tout au long de la saison, de se dire cette équipe va progresser, on va arriver en février en étant prêt. On l'a vu très calme après le match face à Lille samedi. Est-ce que tu sens que Paris va être au rendez-vous?
C'est un engagement de Luis Enrique, arrivé au mois de février avec une meilleure équipe, une équipe plus compétitive. Et en ce sens, la répétition générale contre Lille a été bonne, parce que franchement, quand je vois la rotation, je me dis « aïe, 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 Luis Enrique, moi j'avais besoin de voir l'équipe type ». Et pour autant, les remplaçants, entre guillemets, ont donné satisfaction. Maintenant, du côté du PSG, je ne veux pas oublier que contre Brest, à deux reprises, que ce soit en championnat et en Coupe de France et face à Strasbourg, le contenu a été plutôt inquiétant. Donc par rapport à ça, je n'ai pas le sentiment que le PSG soit en nette progression par rapport à ce qui avait été annoncé. Mais pour autant, j'ai le sentiment que le PSG peut être compétitif, parce que ce qui va être demandé, c'est d'être compétitif à l'instant T face à la Real Sociedad. Et donc moi, c'est vraiment le sentiment qui prédomine, à savoir qu'il y a des choses positives qu'on a vues du côté du PSG, mais on ne peut pas occulter les éléments négatifs, notamment l'organisation défensive qui m'inquiète au plus haut point.
Tu as parlé d'équipe type, c'est marrant, c'est un petit peu compliqué de savoir, surtout au milieu de terrain, quel va être le système retenu par Luis Enrique. Derrière, il y a assez peu de surprises attendues, avec notamment Hernandez qui devrait retrouver le côté gauche et sans doute une charnière Marquinhos-Danilo. Devant, le trio semble établi, Dembélé, Mbappé, Barcola. Au milieu, qui tu vois s'inviter là-dedans? Comment tu vois le PSG sur ce match-là et ce 11 possible?
C'est la principale interrogation, l'une des principales interrogations tout du moins, à savoir l'identité déjà de la sentinelle, parce que c'est un élément qui fait défaut du côté du PSG. Luis Enrique a essayé, a testé des choses, sans pour autant qu'il y ait une solution qui émerge. Maintenant, quant à l'identité du milieu de terrain, je pense qu'on partira sur un milieu avec Zaïre Emery, bien évidemment, qui sera là, Ugarte qui sera également présent. Par contre, quant à savoir l'identité du troisième milieu de terrain, je ne vais pas m'avancer, mais j'ai dans l'idée que, par exemple, l'option Marco Asensio, elle n'est pas à écarter. Pas à écarter, parce que je pense que son match contre Lille a été probant. Et même avec la sélection espagnole, il a déjà été testé à ce poste. Donc, je pense que Luis Enrique, il l'a dans un coin de sa tête. Surtout que là, on est sur un huitième de finale aller à la maison. Ouais. Avec, pas l'obligation, la nécessité plutôt de faire la différence dès le match aller, parce qu'il y a toujours un match retour du côté de la Real Arena, et par rapport à ça, j'écarte pas cette idée. Maintenant, tu as Fabián Ruiz, par sa capacité justement à faire un travail sans ballon, c'est un joueur qui est globalement intelligent, qui peut faire la maille, mais à côté de ça, sur l'identité du milieu de terrain, je serais pas autant définitif.
Tu les connais bien, et Fabián Ruiz et Marco Asensio. Anna, est-ce qu'il y a un des deux que tu vois plus Luis Enrique compatible que l'autre, peut-être?
Dans ce genre de match, c'est vrai qu'on sait que Luis Enrique a une belle affection pour Marco Asensio. Okay. En plus, c'est quand même un habitué des grands soirs en Ligue des Champions avec le Real Madrid. Donc peut-être qu'il va être un préféré. Alors après, le problème, c'est qu'en face, la Real Sociedad, c'est le milieu de terrain, c'est sans doute leur seule zone sûre à présent. Okay. Donc peut-être qu'il va vouloir mettre Fabián Ruiz pour avoir davantage le contrôle du milieu de terrain, parce qu'on sait que Marco Asensio va être beaucoup plus libre, alors que le milieu de terrain de la Real Sociedad risque sans doute de prendre rapidement le pas sur celui du PSG.
Il y a un joueur, ouais, vas-y.
Ouais, j'avais bien évidemment oublié l'option Vitinha. Vitinha qui est aussi une garantie, qui n'est pas à négliger, mais j'ai le sentiment qu'à partir du moment où il y a eu énormément de rotations à ce poste-là, je pense que Luis Enrique va tenter quelque chose.
Est-ce qu'il faut surveiller plus que d'autres joueurs un certain Kubo, Anna?
Oui, alors il revient tout juste de la Coupe d'Asie et pour l'instant, il est encore un peu fatigué, on le sent, il l'a perdu avec la Real Sociedad contre Osasuna.
Ouais.
D'ailleurs, le PSG a réussi son match test, la Real Sociedad qui a perdu 1-0 contre Osasuna, mais en ayant fait beaucoup tourner parce qu'il fallait reposer les cadres, surtout qu'il y a beaucoup d'absents. Du coup, ce qu'on disait côté Real Sociedad, il y a quasiment 7 absents. Quand même cette volonté d'avoir des cadres frais. Takekubo, pour l'instant, c'est vraiment le détonateur de cette équipe. Ça marche encore mieux quand il y a Ander Barrenechea, qui devrait être là au Parc des Princes. Et la rencontre va reposer encore plus sur lui, dans la mesure où, s'il n'y a pas Mikel Oyarzabal, ils vont avoir besoin d'une assurance en attaque, parce que les numéros 9 remplaçants de la Real Sociedad, que ce soit André Silva ou Oumar Sadik, actuellement, ils sont en grand manque de confiance.
Okay.
Donc, il faut un joueur sur lequel on peut se baser pour avoir cette confiance-là. Et pour l'instant, c'est ce qui manque totalement à la Real Sociedad. Mais c'est un joueur essentiel de l'équipe. Et quand il n'était pas là, là, au mois de janvier, comme Amari Traoré, ça s'est beaucoup ressenti pour la Real Sociedad.
J'imagine qu'il faut s'attendre à un bloc bas et plutôt des transitions ou pas spécialement.
On peut s'attendre à ça, oui, surtout au Parc des Princes et surtout dans la mesure où, justement, il manque du monde dans l'équipe, parce qu'il y a aussi l'espoir, sans doute, de dire au match retour, on aura récupéré des forces vives, parce que Mikel Oyarzabal, il a pris un coup au genou et il est pas gravement blessé, donc il devrait revenir. C'est pareil pour Geraldo Becker, c'est une blessure musculaire, mais pas très grave. Et il y en a d'autres qui vont pouvoir revenir, Kieran Tierney aussi, peut-être. Donc, Il y a ça, il y a le fait que donc Ander Barrenechea est de retour, un ailier très explosif, pareil pour Takefusa Kubo. Donc on peut s'attendre à ça, surtout que oui, ce qu'on disait en Ligue des Champions, c'est vraiment leur force. La Real Sociedad, c'est ce bloc très solide, très compact et qui est capable de très bien défendre.
Est-ce que ça s'applique, cette phrase s'applique-t-elle au Paris Saint-Germain, Elton? Est-ce que c'est un bloc capable de bien défendre ensemble?
Justement, c'est là où j'ai une principale interrogation, parce que je l'ai évoqué tout à l'heure, l'animation défensive est la chose la plus préoccupante. On l'a vu face à Brest à deux reprises, on l'a vu face à Strasbourg, même si on l'a un peu moins vu face à Lille, paradoxalement avec une équipe remaniée. Pour moi, c'est la principale interrogation, parce qu'on sait que du côté de la Real Sociedad, il y a une certaine qualité pour bien ressortir le ballon, il y a une certaine qualité pour se procurer des occasions. Et ça fait écho à quoi? Ça fait écho à l'incapacité du côté du PSG à justement entraver la bonne marche des attaquants adverses. C'est-à-dire que très souvent, les attaquants adverses sont en position de tir.
Ouais.
Et pour moi, ce n'est pas forcément la meilleure des choses. Encore une fois, on voit un peu trop Donnarumma. Bon, samedi, c'était Keylor Navas, mais ce que je veux dire par là, si on voit trop Donnarumma, c'est que par extension, tu vois les attaquants adverses se mettre en situation de tir. Ça peut poser moins de problèmes en Ligue 1, par contre en Ligue des Champions, quand bien même la Real Sociedad est en déficit de but actuellement, moi je dirais pas que du côté du PSG c'est une garantie de repartir avec un clean sheet à la maison. Et ça, c'est pour moi, c'est une assurance vie pour voyager loin en Ligue des Champions. Donc vraiment, sur l'animation défensive, sur cette capacité justement à frustrer l'adversaire du côté du PSG, on doit être en progression là-dessus. Et force est de constater que moi j'attendais, sur les deux mois entre le tirage au sort et le huitième de finale aller, j'attendais cette capacité à progresser là-dessus. Et pour le coup, on n'a pas répondu aux attentes du côté du PSG.
Je vais poser une question piquante, mais samedi soir, on a peut-être vu un des meilleurs matchs sur les six derniers mois en termes de pressing part du Paris Saint-Germain. On a vu un Gonçalo Ramos très actif. On a retrouvé le Ugarte des premiers mois presque. Est-ce que Paris défend beaucoup mieux quand Kylian Mbappé n'est pas là?
Évidemment, c'est la question qui tourne énormément depuis samedi. Moi, je pense vraiment que c'est circonstanciel, parce que à partir du moment où tu avais une équipe remaniée, tu avais des joueurs qui avaient vocation justement à être crédibles auprès de l'entraîneur et à avoir un temps de jeu supérieur dans les jours, dans les semaines à venir. Et donc, par rapport à ça, l'implication, elle est beaucoup plus importante. Si tu veux, je vais te donner un autre parallèle par rapport à un match que j'ai vu. C'est le match Real Madrid-Girona, où tu sais qu'à partir du moment où tu n'as pas ta charnière habituelle, ton niveau d'implication, de concentration, concentration est beaucoup plus développée que d'habitude à partir du moment où tu as l'équipe type et donc tu sais que tu peux te permettre d'avoir un peu moins de concentration entre guillemets. Et je pense que du côté des remplaçants, on s'est dit que face à Lille, une équipe qui t'avait posé des problèmes au match aller, on aurait très vite fait le raccourci remplaçant pas au niveau si Lille commençait à bien marcher. Pour le coup, il y a eu 1-0. Et donc, par rapport à ça, ils étaient attendus sur leur capacité justement à défendre en bloc, à être très rigoureux sans ballon. Et là, pour le coup, ils ont affiché un bon visage. Quant à savoir s'il y a un lien de cause à effet avec le fait que Kylian Mbappé justement soit absent, j'irai pas jusque-là. Parce qu'il y a aussi des matchs où, pour le coup, même si Kylian Mbappé, ça sera jamais par exemple un Sadio Mané, ça sera jamais par exemple Victor Osimhen dans sa capacité à faire un travail sans ballon, il a aussi fait des matchs où, justement, il était rigoureux là-dessus. Mais davantage en Ligue des Champions sur les phases éliminatoires, ça c'est vrai.
Anna, évidemment, on va parler un petit peu de Kylian Mbappé. J'imagine, encore plus que d'habitude, mais qu'on aura un œil très attentif à ses prestations de l'autre côté des Pyrénées.
Ah oui, bah, c'est un sujet... On va presque dire que les médias espagnols sont plus réactifs que les médias français sur Kylian Mbappé, parce que quand il s'est blessé à la cheville contre Lille, il y a eu un push, une notification de Marca dans les 30 secondes quasiment, alerta Mbappé. Donc voilà, Mbappé est très 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 surveillé. Et là, c'est sûr qu'un match contre la Real Sociedad, dans la mesure où en plus en Espagne, on sait que la Real Sociedad est moins en forme, que bah voilà, il va avoir sans doute plus d'espace qu'il n'aurait pu en avoir en temps normal. Il a quand même une pression parce que c'est aussi montrer ce qu'il vaut, etc. Parce que en même temps, on a eu le discours de Ancelotti cette fin de semaine sur son équipe, qui disait que Rodrigo, Vinicius, Bellingham étaient tous les meilleurs joueurs du monde, et qui laissait entendre qu'entre guillemets, ils avaient presque pas besoin de Kylian Mbappé. Alors il l'a pas dit comme ça. Mais il répondait à une question sur Mbappé, donc le sous-entendu était quand même assez compréhensible. Donc lui, il a aussi à faire valoir que il peut toujours être indispensable à une équipe, et surtout dans des gros matchs, parce que quand on est Real Madrid, on recrute pas Kylian Mbappé pour gagner contre Almeria, mais plutôt pour ce genre de grosses rencontres.
Mbappé, toi aussi, t'en attends beaucoup, Elton, sur ce match. On sait que les précédentes campagnes européennes du Paris Saint-Germain sont arrêtées beaucoup trop tôt pour un joueur de ce calibre-là. Il doit être au rendez-vous, on le dit à chaque match, mais là, pour le coup, peut-être pour sa dernière saison parisienne, c'est une obligation.
Et tu sais, Cyril, on l'avait évoqué avant le match contre Newcastle, le match retour au Parc des Princes, la phase de poule de Kylian Mbappé, à la différence de l'année dernière, est très contrastée. Alors oui, il y a de bonnes choses, mais il y a aussi de moins bonnes choses, avec notamment ce match catastrophique à Newcastle, ce match non moins catastrophique du côté de San Siro contre l'AC Milan, et là arrive la phase éliminatoire, où forcément, à la différence des saisons précédentes, il n'y a plus Neymar, il n'y a plus Lionel Messi, donc l'attention sera davantage porté sur Kylian Mbappé, sur sa capacité justement à porter le PSG. Donc par rapport à ça, Kylian Mbappé sera particulièrement attendu face à une équipe, encore une fois, qui a une organisation défensive rigoureuse, et j'insiste là-dessus, c'est quand même 2 buts encaissés en phase de poule. Et je te dis ça, c'est notamment un but pour du beurre face au Benfica, alors qu'il menait 3-0, un but dans les dernières minutes face à l'Inter. Donc par rapport à ça, et en plus c'est un très bon gardien, pour moi l'un des meilleurs gardiens de Liga, Remiro. Donc Kylian Mbappé sera particulièrement attendu pour être l'homme providentiel, parce que moi je pars du principe que des 22 acteurs, Kylian Mbappé est le meilleur joueur. Et ça, pour le coup, il doit le prouver et laisser une impression bien plus positive que lors de la phase de poule.
Surtout que sur les grands joueurs comme ça, on parlait de Takekubo tout à l'heure. Lui, Takekubo, il est particulièrement bon dans les grandes rencontres. Donc si Kylian Mbappé veut pas trop se faire manger la vedette par Takekubo, il va falloir qu'il soit lui aussi à la hauteur.
Bon, il y a un petit pronostic alors pour ce match aller. C'est risqué, mais on a l'impression, si je vous écoute quand même, qu'il y a un avantage net, on va dire, pour le Paris Saint-Germain.
Alors, moi, je pars du principe que la Real Sociedad va briser sa série sans but, mais qu'à côté de ça, le PSG va gagner. Alors, je dirais 3-1.
Très bien.
Moi, je pense qu'on va avoir sur un match assez compliqué et que ce sera plutôt une victoire 1-0 pour le PSG.
Voilà, je crois qu'on ne pourra pas faire plus complet autour du match entre le Paris Saint-Germain et la Real Sociedad. C'est mercredi au Parc des Princes, évidemment, on débriefera tout ça sur eurosport.fr. Et nous, on va passer à la suite du programme. On va désormais en Allemagne. Et nous voici donc en Allemagne. On retrouve David Lortolari, notre spécialiste Bundesliga, qui a connu un week-end très animé. Salut David.
Salut Cyril, salut à tous. Vous tombez effectivement au bon moment.
Alors, c'était le choc en Allemagne ce week-end, ce Bayer-Leverkusen, Bayern-Munich qui s'annonçait comme un tournant dans la lutte pour le titre. Il n'y a pas eu photo, tout simplement. Une victoire 3-0 du Bayer-Leverkusen. Comment on analyse ce match finalement extraordinaire, quoi qu'on en dise?
Eh bien, il y a eu d'abord un duel d'entraîneurs. C'est là que les critiques peut-être se portent côté Bayern avant tout, et les éloges se portent côté Bayer Leverkusen, parce que Xabi Alonso, Cyril, a dominé Thomas Tuchel tactiquement. C'est une information importante, c'est une vraie première information. Tuchel s'était dit, je vais jouer en miroir par rapport à mon adversaire. On connaît la formation du Bayer Leverkusen avec une défense à 3, avec un milieu de terrain extrêmement puissant, extrêmement dense, avec Granit Xhaka, avec des joueurs de ballon formidables, et puis une attaque pétillante autour de Florian Wirtz. Xabi Alonso avait opté pour la même tactique que d'habitude, mais avec des joueurs rapides, mobiles devant. Il s'était passé d'un avant-centre, surprise. Tuchel, lui, de l'autre côté, a essayé de, je le disais, de jouer en miroir, c'est-à-dire de proposer là aussi une défense à 3, mais c'est inédite parce qu'au Bayern, ça n'a pas été fait très souvent, voire pas du tout cette saison. Et Thomas Tuchel s'est fourvoyé et il n'y a pas eu de solution côté Bayern. Donc tactiquement, une victoire de Xabi Alonso, ça c'est un élément important. Et puis sur le terrain, les joueurs individuellement ont été complètement rincés côté Bayern par la machine Bayer Leverkusen. Et ça, c'est le deuxième enseignement. C'est-à-dire qu'il y a des joueurs peut-être moins connus côté Bayer Leverkusen. Il y a moins de stars, d'empilement de stars. Mais ces stars prétendues côté Bayern n'ont pas su répondre à l'intensité physique, n'ont pas su répondre aux défis techniques, n'ont pas su répondre aux défis collectifs. Et on a eu vraiment une leçon de football, tactique, technique. C'est vraiment impressionnant. On craignait, quand on était supporter du Bayern, d'être dominé par cette équipe à qui tout réussit en ce moment, Cyril. Et ça s'est vérifié. On se disait, pour ceux qui étaient des supporters prudents du football allemand, le Bayern sera toujours répondre présent au moment où ça compte. Eh bien, pas du tout. Il a été dominé dans tous les compartiments du jeu ce week-end. C'était réellement impressionnant.
Alors, la principale conséquence, elle est au classement, puisque Leverkusen a désormais 5 points d'avance sur le Bayern Munich. J'imagine qu'on parle de ce match comme d'un des tournants de la saison désormais. Est-ce que le Bayer Leverkusen va enfin gagner le titre et va priver le Bayern d'un nouveau titre? On sait que la saison passée, Dortmund est passé tout près. Est-ce que cette saison, le Bayer a plus de chances d'y arriver?
Alors l'histoire nous éclaire beaucoup quand même, Cyril, là-dedans, parce que il y a eu des précédents fameux avec Leverkusen il y a une vingtaine d'années un peu plus, qui était en finale de la Coupe, qui était en finale de la Coupe d'Europe et qui était en bonne position en championnat, qui a échoué sur les trois tableaux, de telle sorte que tous les observateurs, tous les critiques, toutes les personnes qui connaissent, qui sont sensibles à l'histoire de ce football allemand sont encore prudents. Il reste une douzaine de journées. 5 points d'avance, c'est évidemment très significatif pour Leverkusen avec les 3 points acquis en plus ce week-end. Mais on reste prudent parce que l'histoire nous a enseigné que le Bayern, d'une part, savait réagir jusqu'à la dernière minute de la dernière journée, que Leverkusen, d'autre part, n'avait encore jamais réussi à s'imposer au niveau du titre. Il y a très peu de réussite finalement du Bayern Leverkusen dans son histoire. Simplement, ce sur quoi on est d'accord, c'est que le Bayer Leverkusen n'a pas d'adversaire cette saison, que le Bayern Munich est quand même en galère, qu'il n'a pas trouvé de bonne carburation, qu'il n'a pas trouvé d'identité. Je sais, Cyril, que tu vas peut-être souhaiter en dire un mot aussi, mais voilà, on est encore loin du titre final. Aujourd'hui, il n'y a pas d'adversaire pour le Bayer Leverkusen. Il a battu les gros. Il a vaincu Leipzig, il a vaincu Stuttgart, il a vaincu le Bayern encore ce week-end. Donc aujourd'hui, il a toutes les cartes en main. Mais il reste encore beaucoup, beaucoup de matchs à gagner. Le directeur sportif, l'ancien directeur sportif du Bayern, Christian Nerlinger, a fait les comptes ce week-end et a dit il reste encore 39 points à prendre. D'un point de vue comptable, il a totalement raison. Donc on va encore vivre sans doute des rebondissements. Mais encore une fois, jamais le Bayer Leverkusen n'a été en meilleure position pour le titre.
On va parler un petit peu du Bayern, tu l'as dit, parce qu'en plus, il y a la Ligue des Champions qui revient. Ça va bientôt faire un an qu'il y a eu cette éviction de Julian Nagelsmann et la nomination de Thomas Tuchel. Et tu l'as dit, pour l'instant, on ne reconnaît pas trop le Bayern de Munich, pardon. Qu'est-ce qui se passe, tout simplement?
Alors, ce qui se passe, c'est qu'on a la sensation que malgré un bilan comptable très honorable, avant ce match, le Bayern avait le sixième total de l'histoire de ce
OK.
championnat en nombre de points, 50 points en 20 journées. Sur le plan comptable, ce n'était pas si mal. Mais simplement, on a deux fractures. La première, elle est au niveau de ce qu'on observe. Les supporters du Bayern sont frustrés. Le jeu est peu reconnaissable. Il y a des hauts et des bas pour de la part des prestations des joueurs. Certains matchs très réussis. On se souvient de mémoire d'un 8-0 contre Darmstadt. On se souvient de quelques matchs vraiment aboutis. Mais on se souvient aussi de défaites cuisantes. 0-1 depuis le mois de janvier, il y a eu un 0-1 à domicile contre le Werder Brême. Il y a eu un échec fracassant contre Francfort. Je crois que c'était 5 buts à 1. Et puis, il y a eu ce match, une impuissance totale contre Leverkusen. Et ça, donc, c'est le constat sur le terrain. Thomas Tuchel n'a pas réussi à enchaîner les victoires, à s'imposer à ses adversaires. Et puis, le constat que ben, les stars, prétendues ou réelles, Leroy Sané, Joshua Kimmich, les joueurs blessés aussi, comme Gnabry, ces joueurs-là sont en échec aujourd'hui, n'arrivent pas à emmener avec eux la troupe, n'arrive pas à imposer quelque chose, n'arrive pas à imposer un style, n'arrive pas à imposer ce que le Bayern impose toujours, c'est-à-dire une puissance visuelle, une puissance collective. Et ça, c'est l'échec de Tuchel. Et aujourd'hui, il est plus fragile que jamais. Bien sûr, il n'est pas directement menacé, Cyril, pour une raison très simple. Qui pour le remplacer?
Ouais.
Et ça, la question, il n'y a pas de réponse. Mais aujourd'hui, Thomas Tuchel, forcément, va être plus critiqué que jamais. Il y a eu des sifflets timides, mais il y a eu des sifflets quand même à l'issue de ce match. Et le Bayern aujourd'hui en est réduit à devoir se concentrer sur la Ligue des Champions pour essayer de rebondir. Ce qui veut dire que la situation n'est quand même pas très,
Idéal.
très
Ouais.
avantageuse.
Dernier petit mot sur cet affrontement-là. On a parlé de Xabi Alonso au tout début. On sait que son avenir va être très très discuté dans les semaines qui viennent, notamment avec le banc de Liverpool qui s'est libéré. Est-ce que c'est de nature à perturber l'entraîneur qu'il est et le club qu'il dirige, à savoir le Bayer Leverkusen?
Pas du tout, j'ai bien écouté toutes ces conférences de presse avant les matchs, après les matchs. Xavi Alonso montre une espèce de poker face où il est hyper concentré sur le match qui vient, sur la victoire à venir. Évidemment qu'il a été sollicité, il en a même convenu de la part de Liverpool. On peut imaginer aussi une sollicitation de la part du Real Madrid. Le Bayern Munich, ça n'est pas un secret non plus, a réfléchi à lui proposer quelque chose, pas forcément à très court terme, mais à moyen terme. Donc, il va être sollicité de part et d'autre. Pour Liverpool, c'est une évidence. Non, il est très concentré sur sa tâche pour une raison très simple. Ça marche super avec les supporters à Leverkusen, ça marche super avec les joueurs et ses dirigeants, au premier rang desquels le directeur sportif Simon Rolfes, sont à l'aise parce qu'ils lui ont proposé une proposition de contrat, de prolongation, pardon, de contrat qu'il a accepté. Et donc, à Leverkusen, il a aussi un certain confort. C'est une solution pour lui parmi d'autres. Et donc, Xavi Alonso, voilà, il est concentré, il réussit sur le banc ce qu'il réussissait comme joueur. Et maintenant, il va avoir simplement l'embarras du choix. On est à l'aise avec ça à Leverkusen. Et lui, il n'aura plus qu'à choisir, en quelque sorte.
Tu as parlé du Real Madrid qui pourrait être un des clubs qui où officiera pardon Xavi Alonso dans le futur. Le Real, on va le retrouver, on va en parler en Allemagne cette semaine parce qu'il y a la Ligue des Champions qui revient. Il y a le RB Leipzig qui doit se confronter au Real Madrid et sa cascade de blessés. Un petit peu, quelle est la tonalité autour de cet affrontement? Est-ce que le fait que le Real soit diminué fait croire à Leipzig que l'exploit est possible?
Oui, c'est un peu ça, mais c'est coup-ci, coup-ça quand même à la psych, parce
Ouais.
que en fait, la greffe, Marco Rose, qui est un homme de la galaxie Red Bull, on s'imaginait que la greffe allait parfaitement prendre à Leipzig et qu'il allait enchaîner les succès. C'est beaucoup plus compliqué que ça, en fait. Le RB Leipzig a eu un début d'année difficile, Cyril. Il y a eu des défaites un peu à l'arraché, mais des défaites finalement qui ont plombé un petit peu le moral. Il y a une équipe qui est moins fluide, moins en réussite qu'on imaginait, des joueurs qui ont moins pris que d'autres, notamment au milieu de terrain. Je pense à un exemple, l'Autrichien Seiwald. On se disait, oh, c'est le nouveau prodige de l'Autriche avec son club, il va faire des étincelles. Et finalement, on est un peu en deçà de ce qu'on pouvait imaginer.
Ok.
Peut-être que la Ligue des Champions va être une espèce de défouloir pour Leipzig. Donc, je serais prudent quand même et méfiant si j'étais côté Real. Mais le RB Leipzig, on le voit d'ailleurs au classement en Bundesliga, ne réussit pas aussi bien qu'il espérait en début de saison et il va devoir lutter pour être dans les 4-5 premiers avec Dortmund, avec le VfB Stuttgart. Leipzig est un peu en galère quand même et c'est quand même plutôt bon signe pour le Real Madrid.
Eh bien, merci beaucoup David pour ce point éclairé sur la Bundesliga. On suivra évidemment l'évolution de cette saison en Allemagne avec toi d'ici la fin du championnat. Merci beaucoup David. On va quitter l'Allemagne désormais et on va aller en Angleterre. Et allez, on termine cette émission par l'Angleterre. On retrouve Philippe Auclair qui a vécu un week-end. Bon, en fait, c'est toujours le même lancement, Philippe. C'est ça le problème, c'est que c'est toujours animé en Angleterre. Comment ça va?
Pas trop mal, je te remercie. Ma tasse de thé est là, fidèle au rendez-vous. Écoute, un week-end un peu comme les autres, oui, comme tu dis, et dans lequel, en fait, je pense la principale chose qu'on peut dire, si jamais on devait tirer un enseignement, comme on dit,
Ouais.
général, c'est que le break est fait, à mon avis, maintenant. Parce qu'on avait quatre équipes en course pour le titre, mais la défaite à domicile d'Aston Villa,
Oui.
ça redistribue un petit peu les cartes quand on voit un petit peu le rythme que soutiennent Manchester City avec le retour de Erling Haaland, qui n'avait pas marqué depuis le mois de novembre. Vous vous rendez compte? C'est parce qu'il était blessé, les gars. Liverpool, qui surmonte bien, très bien même, l'absence de Mo Salah, qui va maintenant de nouveau être disponible, puisque la CAN est terminée. Et puis Arsenal, qui nous a fait une démonstration face à West Ham, au London Stadium, 6-0. Je pourrais faire la liste, j'ai fait une petite liste des records qui ont été battus dans cette rencontre. On pourra peut-être y venir un peu plus tard, mais en tout cas, c'est assez étonnant ce qu'ils ont fait. On s'y attendait peut-être pas nécessairement. West Ham, c'était censé être une peau de banane. On se souvient des deux derniers matchs qu'ils avaient fait contre les Hammers. Ça s'était mal passé, que ce soit en championnat ou en Carabao Cup, en Coupe de la Ligue. Mais là, ils ont fait le boulot. Et du coup, ben voilà, on a trois équipes qui se détachent, celles qu'on attendait, hein.
Ouais.
Je pense que si on avait fait un sweepstake au début de la saison, si on avait dit, OK, ce sera Manchester City, Liverpool, Arsenal, dans le trio de tête, je pense qu'on aurait dit la même chose.
Bon, on va débriefer tout de suite ce match, Philippe, parce que c'est vrai que le score a un petit peu attiré l'attention.
Oui,
Et c'est
à
vrai qu'un
juste titre.
0-6, notamment le 0-4 à la mi-temps et les images des fans de West Ham qui quittent l'enceinte, a marqué les esprits. Peut-être un petit mot, on en a déjà parlé sur Eurosport.fr, mais on peut le souligner à nouveau, l'efficacité dingue d'Arsenal sur coup de pied arrêté, c'est assez impressionnant.
Oui, deux buts de plus à mettre au
Ouais.
crédit de Nicolas Jobert, hein, donc le Français, ne l'oublions pas, qui s'occupe des coups de pied arrêtés pour Mikel Arteta après avoir fait le même boulot à Manchester City. C'est remarquable, encore que cette fois-ci, mis à part la qualité de la frappe de Declan Rice
Ouais.
sur le corner comme sur le coup franc qui amène les buts de Gabriel et de William Saliba, la défense de West Ham était
Oui.
complètement bon,
Amorphe, ouais.
complètement perdue. Mais c'était pas du tout une chose pour laquelle Arsenal était célèbre. C'est moins qu'on puisse dire, c'était ses prouesses sur les coups de pied arrêtés, que ce soit pour les défendre ou pour marquer. Là, c'est devenu une arme absolue pour cette équipe. Ce qui montre assez, d'ailleurs, je pense, Cyril, la façon dont le style a changé, à savoir que c'est plus vraiment l'Arsenal très jeune, très enthousiaste, très séduisant, parfois un peu foufou, parfois un peu fragile, que l'on connaissait il y a encore pas si longtemps que ça, mais que Mikel Arteta l'a vraiment reformaté à son image, et que c'est donc une équipe très solide défensivement et qui est redoutable en contre et redoutable sur les coups de pied arrêtés. J'ai l'impression de décrire l'arsenal de George Graham, ce qui ne me rajeunit absolument pas. Mais en tout cas, c'est très efficace, et là, ça fait la différence, et c'est d'autant plus important que s'il y a une chose peut-être qui manque à cet Arsenal, c'est d'avoir davantage de conviction et de réussite devant le but.
Ouais, tout à fait.
Quand on voit encore une fois le nombre d'occasions qui se sont créées, quand on voit le nombre d'occasions qui ont été manquées, Bukayo Saka finit avec un doublé, mais il manque deux buts qui, je ne dirais pas, étaient tout faits, mais que ce soit sa tête ou sa petite louche
Ouais.
sur Areola qui sont loupées. Ils auraient pu remarquer beaucoup plus. Gabriel Jesus est blessé à nouveau. Edin Ketia, ce n'est pas vraiment ça.
Ouais.
Enfin bon. Et à cause de cela, le fait qu'ils doivent se reposer sur les coups de pied arrêtés, et qu'ils peuvent le faire en toute confiance, c'est un atout absolument majeur dans leur velléité d'obtenir un premier titre depuis 2004.
Alors, il y a un joueur qui a été aussi au centre de toutes les attentions sur ce match, c'est évidemment Declan Rice, parce que il revenait en terre promise, à savoir à West Ham. Il a été brillantissime, deux passes décisives, donc sur coup de pied arrêté. Ce coup de canon en fin de match, magnifique. Et ça symbolise finalement, voilà, vue de France, c'est vrai que l'été dernier, quand on a vu les tarifs aligné pour Declan Rice, qui était sans doute un très bon milieu de terrain du côté de West Ham, mais ça a fait tiquer, voilà, plus de 120 millions d'euros, si je ne dis pas de bêtises. Et pourtant, c'est peut-être l'un des meilleurs joueurs de Première Ligue cette saison. En tout cas, c'est un élément inestimable pour Mikel Arteta, qu'il a utilisé 33 fois sur 34 fois possibles cette saison.
S'il avait pu le faire 34 fois
Ouais,
sur 34, il
il
l'aurait
l'aurait fait.
fait. Et je pense qu'il a sa place dans le 11 de l'année. On met ensemble Rodri et Declan Rice
Ouais.
au milieu de terrain et ça fait très très peur. En plus de ça, son jeu est en train de prendre une dimension différente.
Ouais.
C'est normal. Il était avec West Ham depuis tout petit, hein, on va dire ça comme ça, depuis qu'il était très jeune. Et il avait un rôle différent dans cette équipe de West Ham dont il était devenu le capitaine. C'était lui un petit peu l'ancre de ce navire. C'était lui qui donnait sa solidité à ce bateau qui avait tendance à tanguer. Là, c'est différent. Il a plus de liberté. Il peut se projeter davantage vers l'avant. On voit d'ailleurs le résultat. Il a déjà 4 buts à son actif en Première Ligue. C'est autant qu'en quelque autre saison, au bout de 37 ou 38 matchs. L'année dernière, je crois qu'il avait marqué 4 également pour West Ham en Première Ligue, mais en jouant 37 matchs sur 38. Tu vois
Ouais.
que les entraîneurs, quand ils l'ont, ils l'utilisent. Et c'est vrai que ça fait une différence. Et d'autre part, quand tu parles du prix, je signale au passage qu'il n'a pas coûté plus cher que Moisés Caicedo ou que Fernandes pour Chelsea.
Ouais.
On voit la différence. Et c'est quand même pas hasard si jamais Manchester City, qui Dieu sait, pourtant bien équipé en milieu de terrain, s'était mis sur les rangs et avait tout fait pour essayer de le souffler aux Gunners. Donc c'est un joueur qui vaut ce qu'il vaut sur le marché des transferts. Si jamais il était de nouveau mis en vente par Arsenal, je pense que les 100 millions, on les passerait, 105 millions de livres, c'était. Donc oui, 120 millions d'euros, c'est beaucoup. Il y a beaucoup de clubs qui aimeraient avoir ça pour leur budget annuel.
Ouais.
Mais c'est, je pense que le prix serait encore supérieur à celui-là. Il est tout simplement l'un des meilleurs milieux de terrain d'Angleterre et d'Europe et du monde. Et raison au passage pour laquelle on en reparlera au mois de juin et au mois de
J'allais y
juillet.
venir, mais c'est vrai que la doublette Rice Bellingham au milieu,
Oh là
ouais.
là là.
Elle fait peur.
Avec, ça fait peur avec qui sait Phil Foden en numéro 10
Ouais.
dans la façon dont il est déployé par Pep Guardiola de plus en plus souvent. Ça fait très 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 peur, oui.
Il y a une image qui t'a un petit peu énervé, on va le dire, Philippe, ou en tout cas que tu ne
Ouais.
comprends pas, c'est les sifflets adressés à David Moyes de la part des supporters des Hammers. Alors évidemment, cette défaite, elle fait mal face à un rival, ça fait encore plus mal, mais David Moyes, ce n'est pas n'importe qui pour les Hammers.
David Moyes, pour commencer, c'est quand même l'homme qui les a sauvés deux fois la relégation. La première fois, quand il est arrivé en 2017, quand c'était dans la zone rouge, et il est parvenu à les sauver. La deuxième fois, c'est lorsque l'expérience avec Mauricio Pellegrini avait tourné vinaigre. Hein. Il arrive, le club était 17e, donc semblait encore une fois sur la mauvaise pente. Il les redresse, il les sauve, etc. Et c'est pas seulement ça. Il leur apporte leur premier grand titre, et un titre en Europe en plus, depuis la finale de la Coupe des Coupes, c'est donc qui remontait au temps de nos aïeux. Il les fait revenir. Il arrive dans un club qui est en relégation. Il finit avec un total de points, le plus gros total de points de West Ham en Première Ligue. Il finit sixième. Il se qualifie pour l'Europa League. Là, ils sont en Europa League. Ils ont gagné leur groupe. Non, mais enfin, c'est dingue. Est-ce que ces supporters des Hammers se rendent compte qu'ils ne soient pas contents? Qu'il manifeste contre je ne sais pas quoi, je veux bien, mais un petit peu de dignité. Qu'il s'en aille du stade. David Moyes lui-même reconnaissait qu'il comprenait leur attitude parce que franchement, ce que son équipe avait proposé était minable. Mais là, j'avoue que entendre des sifflets, des chants comme ceux qu'on a entendus au City of London Stadium, moi, ça me dégoûte et j'avoue que j'ai beaucoup de mal à comprendre l'attitude de ses supporters.
Je ne sais pas si tu as fait une analogie entre Mauricio Pochettino et Manuel Pellegrini, mais tu nous l'as appelé Mauricio Pellegrini, mais c'est peut-être parce que la situation de Chelsea et de Mauricio Pochettino est aussi
Ah, mon
désespérante.
Dieu.
Et ben merci beaucoup, Philippe. Il y a la Ligue des Champions qui arrive. A priori, pas trop d'histoires à raconter autour de Manchester City qui se déplace à Copenhague. Ça va rouler.
Bah, si ça ne roule pas, on en parlera.
Ouais, voilà, c'est ça. Eh ben merci beaucoup Philippe, bonne semaine et on se retrouve la semaine prochaine dans Tour d'Europe.
À très vite.
D'ici là, portez-vous bien et suivez le football européen.